Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comment seront calculées les futures retraites? L'examen total du projet de loi a échoué hier soir en commission spéciale à l'Assemblée nationale, faute de temps. Quelques détails toutefois ont été précisés. La valeur du point ne sera finalement pas indexée sur les salaires, mais sur le revenu moyen d'activité par tête. Premières explications à suivre. Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur les techniques de blanchiment d'argent pour financer le terrorisme. Une ordonnance présentée en Conseil des ministres ce matin entend lutter plus efficacement contre cette pratique. Et puis vous entendrez les inquiétudes d'associations face au coronavirus qui pourrait toucher la population ouïghour. Elle vit dans des camps surpeuplés dans le nord-ouest de la Chine. Les députés n'ont donc, comme prévu, pas réussi à examiner tous les amendements du projet de loi ordinaire pour réformer les retraites. Les débats ne seront pas prolongés et la réforme reviendra donc en hémicycle à l'Assemblée lundi prochain dans sa première mouture, celle du gouvernement. Les discussions néanmoins ont été riches ces derniers jours. Elles ont permis d'aborder des aspects centraux de la future réforme, notamment l'évolution du futur point. Là-dessus, il y a encore des nouveautés et surtout des inquiétudes, Catherine Pétillon.
Dans cette future retraite à points, quelle sera la valeur du point ? À ce stade, cela reste l'une des interrogations principales. Rappelons que les points seront accumulés au cours de la carrière, puis convertis en pension au moment de liquider sa retraite. Comment seront-ils revalorisés ? Le texte prévoit que cela soit en suivant l'évolution de ce qu'il appelle désormais le revenu moyen d'activité. Voilà un changement de taille. Il n'est plus question, comme c'était le cas jusqu'ici, de prendre pour base de calcul les salaires, mais les revenus de l'activité donc. La modification n'est pas uniquement sémantique, c'est le choix d'une nouvelle et autre base de calcul. Parler d'activité exclut le capital et les prestations sociales. Mais cela signifie aussi prendre en compte non plus seulement les salaires du privé, mais aussi les traitements des fonctionnaires et les revenus des indépendants. Cela correspond au caractère universel de la réforme, justifient les rapporteurs du texte. Seulement, cela pourrait aussi freiner la valorisation du point. La moyenne sera plus faible, surtout quand on sait que le point d'indice des fonctionnaires est gelé et que les auto-entrepreneurs gagnent en moyenne 500 euros par mois. Découvert en commission par les députés, les contours de ce futur indicateur ont déclenché la colère de l'opposition de gauche, et cela d'autant plus qu'il n'existe pas. Charge à l'INSEE, l'Institut de la statistique publique, de le créer après le vote du texte, précisent les rapporteurs, et une fois tous les caractéristiques définies, en somme, beaucoup d'inconnus encore.
La réforme des retraites, défendue d'ailleurs ces derniers temps par la majorité, qui était en difficulté face à l'opposition. Hier soir à l'Élysée, Emmanuel Macron recevait ses députés de la majorité, leur demandant une fois encore de vendre cette réforme qui doit être bouclée avant l'été, a-t-il martelé à l'Élysée. Le chef de l'État les a également assurés de son soutien indéfectible. Vous catalysez la violence de manière inqualifiable, injuste et disproportionnée. Voilà ce qu'il a lancé aux députés La République En Marche. À l'Élysée toujours, Emmanuel Macron présidera aujourd'hui le 4e Conseil de défense écologique. L'instance avait été créée après le grand débat national pour traiter les sujets environnementaux. Les précédents conseils avaient été marqués par l'abandon du projet minier de la Montagne d'Or en Guyane, l'abandon aussi d'Europa City, un immense centre commercial au nord de Paris. Cette fois, le président devrait annoncer la création de nouveaux parcs naturels régionaux ainsi que des mesures de protection pour le Mont Blanc. Autre présentation en Conseil des ministres, cette fois présentation d'une ordonnance par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Elle vise à lutter contre le blanchiment d'argent pour financer le terrorisme. Le texte est une transposition d'une directive européenne car il faut adapter de manière régulière notre cadre juridique. Les menaces de blanchiment et de financement du terrorisme sont en effet multiples et en permanente recomposition, Hakim Kasmi.
Si la France est en avance par rapport à ses voisins européens dans la lutte contre le blanchiment, elle entend encore se renforcer, car les organisations terroristes diversifient de plus en plus leurs sources de revenus. Aujourd'hui, les dénonciations viennent à 90% des organisations financières, comme les banques et les assurances. C'est pourquoi Bercy souhaite également élargir son arsenal. Le ministère de l'économie va donc assujettir les greffiers des tribunaux de commerce, ce qui va permettre de mieux repérer des transactions soupçonneuses, comme par exemple une personne qui ouvrirait 30 entreprises d'un coup pour les refermer une semaine après, le temps de blanchir son argent. Le texte prévoit aussi d'assujettir les CARPA, ce sont les caisses autonomes de règlement de paiement des avocats, avec un objectif, mieux surveiller les transactions financières. L'ordonnance prévoit également de mieux collaborer avec les notaires, les agents immobiliers, les professionnels de l'art et ceux du secteur des jeux. Ces derniers pourront aussi faire ce qu'on appelle des déclarations soupçonneuses. À Tracfin, l'organisme chargé de repérer les mouvements financiers suspects. Enfin, Bercy va également renforcer les contrôles sur les cartes de crédit prépayées et les crypto-monnaies. Autant de mesures qui permettra à la police et à la justice d'être plus efficaces dans la bataille contre le terrorisme.
Le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 1110 personnes en Chine, d'après les autorités. Elles évoquaient hier soir également plus de 44 000 personnes contaminées dans le pays, contaminées donc par ce virus désormais appelé le Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce matin, on apprenait également que le nombre de personnes touchées sur le paquebot mis en quarantaine au large du Japon a augmenté. 175 cas ont été détectés sur plus de 2600 passagers. Et il y a une région qui s'inquiète particulièrement de voir le virus arriver dans le nord-ouest de la Chine où se trouve la diaspora ouïghour. Au moins 1 million de personnes issues de cette minorité musulmane y seraient détenues par le pouvoir chinois. Une pétition pour demander leur libération en pleine épidémie a donc été lancée, Pauline Joss.
Dans ces camps surpeuplés, la faim et les travaux forcés laissent présager le pire si jamais le coronavirus contaminait l'un des détenus. C'est précisément ce qui alerte les associations de défense des droits de l'homme et les Ouïghours expatriés. Si la communauté internationale échoue à obtenir de la Chine des mesures adéquates pour empêcher l'épidémie dans la région, cela ajoutera une toute autre dimension au génocide en cours des Ouïghours par la Chine, peut-on lire sur leur pétition en ligne. Rappelons que selon les autorités chinoises, ces camps sont des centres de formation professionnelle pour prévenir la radicalisation religieuse. Elle recensait ce lundi 55 patients contaminés dans le Xinjiang, la région autonome où sont installés ces camps sans aucun décès à déplorer. Les défenseurs des Ouïghours appellent l'Organisation mondiale de la santé à se rendre sur place et demandent à la Chine de rendre leur liberté aux occupants de ces camps.
Le président déchu au Soudan, Omar el-Béchir, sera remis à la Cour pénale internationale. Un responsable soudanais l'affirmait hier soir. Omar el-Béchir est poursuivi depuis plus d'une décennie maintenant par la justice internationale sur des accusations de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Marie-Pierre Véraud y reviendra dans sa revue de presse internationale à 7h35 tout à l'heure sur France Culture. Des représentants de gouvernements européens, des ambassadeurs africains, des économistes et des chefs d'entreprise, tous étaient réunis hier à Paris au siège de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. C'est une initiative du Cercle des économistes. L'idée, en fait, est de réfléchir à une nouvelle manière d'investir sur le continent africain, mais tout en permettant le développement. Il faut pour cela une rupture idéologique. Voici l'appel lancé par Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes.
Le monde a vécu sur l'idée que le développement était régi par une sorte de religion qui s'appelait le consensus de Washington et qui consistait à dire que pour développer un pays, il suffisait de le faire s'insérer le plus possible dans le marché mondial. Ça signifiait supprimer toute politique de tarifs, toute politique de subvention, détruire les cultures vivrières, etc., etc., etc. Aujourd'hui, deux constatations sont venues changer notre manière de voir. La première, c'est que l'Afrique en tant que telle va devenir sûrement un des relais de croissance très important dans une économie mondiale qui est en train de ralentir de manière significative. Et deuxième aspect, pour que ceci se passe le plus rapidement possible, il faut passer à une logique qui n'est plus celle de simplement une globalisation et une suppression de toute politique lucide sur la spécificité de chaque pays, qu'il faut venir donc à ce qu'on a appelé le consensus de Dakar. Un, nécessité absolue d'augmenter les dépenses d'investissement en infrastructure en Afrique. Deuxième aspect, essayer d'améliorer la perception que le monde financier mondial a de l'Afrique, qui voit beaucoup de risques, et donc d'essayer de baisser les taux d'intérêt, le coût de l'investissement en Afrique. C'est un peu la logique que nous avons essayé de mettre en œuvre.
C'était Jean-Hervé Lorenzi, interrogé par Diane Berger. Le sénateur socialiste américain Bernie Sanders remporte la primaire démocrate du New Hampshire. Il est suivi de près par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar. Longtemps favori, l'ancien vice-président Joe Biden, lui, a essuyé un cuisant revers. Il n'arrive qu'à la 5e place derrière la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. Revenons-en en France pour quelques mots de météo. Ce mercredi matin, toutes les vigilances vigilance orange sont levées. La pluie va tomber sur le nord de la France, tandis que les éclaircies seront belles au sud de la Loire. Ce matin, comptez 5 degrés à Strasbourg et à Lille, 6 à Paris et Lyon, 8 degrés à Bordeaux, 14 degrés dans la matinée à Nice.